Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal, une présentation d'Athlétique Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie d'Arpin Basu et de Sean Gordon. Messieurs, bon lundi.
Allô?
Bon lundi. Wow. Je pense que...
C'est rare qu'on se parle cette journée-là. Normalement, on doit le faire vendredi. Évidemment, il y a beaucoup de choses dont l'actualité va nous amener à plein d'endroits aujourd'hui. Il y a des questions de l'ouverture de lancement de la phase 2 des activités de la Ligue nationale dans le protocole de retour au jeu. Mais la raison pour laquelle on n'a pas pu se parler, en fait, pas faire de podcast vendredi, c'est qu'on avait tous les trois les deux mains, les genoux, tout le corps dans un immense texte qu'on a publié ce matin sur Athlétique, qui portait sur les 10 ans de la poussée en séries éliminatoires du Canadien, le fameux printemps à Lac. Êtes-vous content de ce document-là, finalement?
Oui, je suis très fier. Moi, je suis très fier du travail qu'on a tous accompli, en plus d'Aaron Yeomanson, qui a fait un travail énorme à le structurer un peu mieux qu'on l'avait fait. Alors, vrai travail d'équipe. Je pense jamais avoir effectué un projet de même avec un tel niveau de collaboration avec des collègues. Alors ça, c'est très valorisant. En tout cas, je suis très fier. Puis je pense que l'histoire elle-même, on a découvert des choses qu'on savait pas concernant ce fameux printemps. Alors, j'ai hâte que tout le monde le lise, mais moi je suis content que c'est finalement sorti. Je me sens comme un nouveau papa aujourd'hui un peu.
Oui, c'est ça. Écoute, c'est on a quand même accouché d'un texte de quoi, entre 8000 et 9000 mots. C'est une grosse commande, mais je pense que les lecteurs vont y gagner. Je sais qu'en ce moment, en l'absence de hockey et de sport professionnel en général, il y a beaucoup de textes qui se portent vers le passé, etc. Et puis peut-être que les gens disent, ah ben là, pas encore le passé. Mais je pense que c'était particulièrement important de se retourner vers les 10 ans de cet événement-là. Parce que d'une part, les séries 2010, pour toute une génération d'amateurs qui sont trop jeunes pour avoir connu la Coupe Stanley de 1993, les séries de 2010 sont probablement les moments les plus exaltants qu'ils ont eu à vivre en tant qu'amateurs. Donc, il y a ça. Et par ailleurs, la façon dont Bob Gainey avait chamboulé son équipe, avait complètement transformé son noyau durant l'été 2009, ça a été pratiquement quelque chose d'historique, de jamais vu dans l'histoire de la concession, fait que ça valait la peine d'explorer la façon dont ça a été fait tout ça.
Je crois que oui, et puis c'était vraiment en plus que ça, je renchérirais en disant que c'est un moment charnière aussi, hein, dans l'histoire de cette équipe-là, à plusieurs niveaux. Il y avait le centenaire, il y avait, comme tu dis Marc-Antoine, le chamboulement, le grand chamboulement, qui a précédé cette saison-là. Et c'est vraiment le moment où on a vraiment vu l'éclosion, notamment de Piqué Subban. Les 12 travaux d'Astérix pour Carey Price cette saison-là, ça a été compliqué, là. Hein? Votre prochain défi. Et puis, je pense que il y a tellement de choses qui ont été décidées cette année-là, qui ont eu des effets à long terme, que ça vaut la peine d'y revenir. J'aimerais aussi revenir un petit peu sur ce qu'Arpin disait. Je suis extrêmement fier de notre collaboration. Je sais que c'est peut-être là des histoires de journalistes là de tout ça, mais vraiment là, je pense qu'on a fait un très beau travail d'équipe et je pense que le produit en témoigne beaucoup. Et je me sens à peu près exactement comme je me sentais il y a 10 ans jour pour jour, alors que j'étais en transit dans l'aéroport de Newark pendant de très longues heures en attendant ma connexion pour revenir de Philadelphie, qui évidemment est l'aéroport le plus difficile du monde à sortir de. Mais bon, bref, toujours est-il que je pense que vraiment là, il y a une valeur intrinsèque à ce retour-là en arrière, pour la simple et bonne raison que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir là, les semences là, de plusieurs choses qui se sont passées depuis ce temps-là.
Oui, effectivement. Puis en parlant de l'équipe, de notre équipe, dans le fond, j'ai oublié de mentionner le nom de Mathieu Hart-Garnier qui a fait un travail énorme en traduction. Alors vraiment, il y avait 5 personnes qui ont collaboré sur cet énorme projet, puis un projet que je pense que valait la peine. Alors, je voulais juste noter ça, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments de ce parcours-là en 2010 qui ont comme marqué l'équipe pendant des années, tu sais, comme Bob Gainey qui quitte en plein milieu de saison, si tu te rappelles, c'est pas si longtemps après qu'il avait perdu sa fille dans un accident tragique à la mer, il avait perdu sa femme avant ça, c'est quand même, tu sais, il avait plus l'énergie de continuer, alors lui, il change. Il ramène, tu sais, Pierre Gauthier et donner la job sans vraiment une recherche de la part du Canadien extensif. Je me rappelle, Pierre Brouvin à l'époque avait dit que il n'y avait pas d'autres candidats qui cochaient toutes les boîtes pour eux autres, notamment qui étaient bilingues et qui avaient une expérience, puis ça, puis ça, puis ça. Alors, ils n'ont pas vraiment fait une recherche pour remplacer Bob Gainey, puis on sait tous comment. L'époque de Pierre Gauthier. Il aurait dû, ouais. Peut-être ça valait la peine de demander à un ou deux personnes là, si c'est intéressé à la job du quand même directeur général du Canadien de Montréal. C'est quand même un job que plusieurs personnes auraient aimé avoir. Mais non, Pierre Gauthier était là, et tant pis, il a l'air d'être le meilleur candidat, on va lui donner le job. Alors ça, c'est arrivé cette année-là. C'est l'arrivée de Jacques Martin, l'arrivée de Piquet Subban, comme Sean a noté, mais particulièrement. Ce que Carey Price a appris, puis la réalisation qu'il a eue à cause de ses déboires cette saison, puis la saison d'avant aussi, a vraiment marqué la concession dans le sens où, sans ça, puis il y a plusieurs joueurs qui nous a dit, notamment Josh Georges l'a mentionné, Brian Giant l'a mentionné, que sans cet événement, sans cette saison-là, on n'aurait jamais eu le Carey Price qu'on a eu après ça. C'est peut-être que oui, mais il y avait une forte possibilité que non. Il n'aurait jamais mis aussi d'ardeur au travail, aussi son éthique de travail n'aurait jamais été aussi élevée pour lui permettre de se rendre à un niveau où il peut remporter le trophée Vezina, le trophée Hart, gagner les Olympiques, remporter une Coupe du Monde, etc. Tout ça a quasiment commencé pour lui en 2010. Pendant qu'il était assis sur le banc.
Oui, parce que c'était un cas classique d'un gars qui avait un talent immense, mais qui, en tant que jeune joueur, avait un petit peu le syndrome du « tout m'est dû ». Et on peut pas dire que Bob Gainey avait fait quoi que ce soit pour changer ça, parce qu'il avait vraiment déroulé le tapis rouge tout au long à partir du moment où il l'avait repêché. Alors, le fait de recevoir une petite taloche derrière la tête, de se faire remettre à sa place en disant ben là à partir d'aujourd'hui t'auras plus tout cuit dans le bec, puis tu vas devoir travailler mon kid si tu veux avoir ce que tu veux. Je pense que c'est une énorme leçon parce que ça, tu sais, je me souviens, on l'a pas mis dans le texte, mais je me souviens qu'à l'époque Paul Mara avait dit au terme des séries éliminatoires que Carey Price est devenu un homme durant ce printemps là. Alors, c'est assez significatif.
Des fois, ça prend une claque sur la gueule pour se réveiller. Et puis, celle-là, c'est une moyenne gifle que lui a eue. On peut réagir de plusieurs façons. Hein. Il y a des joueurs qui auraient pu peut-être reculer devant l'ampleur de ce défi-là ou qui auraient juste dit, ben là, visiblement, mon avenir va se passer ailleurs. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est vraiment ça l'important parce que une des critiques que bien des gens avaient à l'endroit de Price, c'était justement son manque de maturité et le fait que voulait-il vraiment? Et je pense que la question, elle a été posée de façon assez sévère et on lui a répondu. Et même si, en jasant avec les gens qui étaient là à l'époque, tout le monde était convaincu du fait que c'était lui le gardien de l'avenir, que c'était l'homme de confiance de l'organisation, il l'était un peu avant aussi, mais c'est-à-dire qu'il fallait qu'il prenne un petit pas de recul pour vraiment se dédier là à son art. Et je pense que
Il l'a fait avec brio et c'est intéressant de voir que il y a des joueurs qui sont arrivés quelques mois à peine, en grand nombre aussi là avant ces séries-là, et que ce sont ces gens-là, malgré le fait qu'ils n'avaient pas été vraiment là pendant l'éclosion de Price ou ses débuts dans la ligue, c'est eux qui ont vraiment aidé à le façonner là. Et puis on peut parler notamment de André Markov qui était là qui était là auparavant, mais il y en a eu d'autres. Il y avait Hal Gill, il y avait Scott Gomez, il y en avait là, une tralée, le Brian Gianta et compagnie. Et je pense que il y a aussi un truc où ces gens-là ont montré à d'autres comment être des bons leaders. Est-ce que Josh Georges devient le leader qu'il est devenu sans avoir été pris sous l'aile, mettons, de Hal Gill ou d'un gars de même? Je le sais pas.
Ben moi, j'aimerais parler un peu du fait, l'impact que Hal Gill a eu sur cette organisation-là. Il a passé quoi, deux ans avec le Canadien? Peut-être trois ans et demi, jusqu'au deadline de sa troisième saison. Là,
c'est ça.
Puis c'est frappant à quel point ce gars-là, que tu sais, c'est un bon défenseur quand même, mais c'est un défenseur d'habitude de troisième paire, peut-être deuxième dans la plupart des cas. Il a pris un rôle énorme sur cette équipe-là. Et a eu une influence tellement énorme. Il y a non seulement Georges, Carey Price, il y a une chose qu'on n'a pas mis dans le texte parce que c'est pas arrivé cette saison-là, mais c'est Hal Gill qui a dit à Carey Price d'arrêter de regarder ses défenseurs avec les gros yeux après un but, là, qu'il faisait très souvent quand il était plus jeune. Hal Gill a mis fin à ça, là. Il a dit, écoute, toi tu fais pas ça, nous on fait des gaffes, toi tu fais des gaffes, on est tous ensemble, on est une équipe, arrête donc ça parce que tout le monde le voit, là. Puis ça suffit, arrête ça. Puis Carey Price l'a arrêté tout de suite. C'était terminé, ça. Puis toute son attitude de « moi, je suis le gardien, les autres devront m'aider », son attitude a changé en raison de ça. Piqué Subban, pendant deux ans, il était assis à côté de Hal Gill dans le vestiaire. Hal Gill écoutait ses entretiens avec les médias pour voir ce qu'il disait, là. Pour une part, parce qu'il trouvait ça drôle, mais d'une autre part, pour voir comment il se comportait, puis ajuster son comportement ici et là, puis... Est-ce que ça a eu l'effet désiré? Peut-être pas. Mais en tout cas, ça lui a aidé à d'une certaine façon. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que Hal Gill est parti. Piqué a appris ce qu'il a appris. Puis éventuellement, ils ont échangé Piqué. Pourquoi un gars qui est très similaire à Hal Gill d'ensemble, où il rassemble le monde, puis c'est un leader, puis il est bon dans le vestiaire, en Shea Weber, évidemment, un joueur qui est beaucoup meilleur que Hal Gill. Mais en tout cas... ça menait à ça. Alors, moi, je trouve ça fascinant comment un gars comme ça, qui est comme vers la fin de sa carrière, qui a toujours été comme un défenseur extra ou un gars qui est juste là pour la profondeur, a eu tellement un impact parmi tous les joueurs qu'ils ont amenés cette saison-là. Tu sais, avec le Gianta, Camilleri, Gomez, comme quand même des gros noms avec beaucoup de talent. Tu peux faire l'argument que c'est Hal Gill qui a eu le plus grand influence sur ce groupe-là. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais tu peux au moins faire l'argument.
Je trouve ça fascinant, en fait. Je veux juste enchaîner rapidement là-dessus. C'est que c'est tous des joueurs qui étaient un petit peu des joueurs de second rang là, dans leurs équipes. Avant d'arriver à Montréal. C'est-à-dire, il y avait Gomez et Gianta, là, il avait appris au chevet là, des Scott Stevens de ce monde, Ken Danico et compagnie. Là. Gill, qui avait été dans des équipes... Pat Burns voulait rien savoir de lui, vous vous souvenez? Là, et sortez-moi ça d'ici, il est pas capable de jouer au hockey, ce gars-là. Quand il était à Boston au début. C'est tous des joueurs, puis quand on se regardait, on se disait, cette année-là, il n'y avait plus de capitaine. Donc, qui sera le prochain capitaine du Canadien? Puis tu faisais la liste des candidats, tu disais, est-ce que Brian Gianta peut vraiment être capitaine vu son rôle au New Jersey? Eh bien oui! Et puis, Hal, en quelque sorte, est devenu un petit peu l'âme, la conscience tranquille là, de cette équipe-là. Et c'est absolument vrai qu'il a eu une très, très grande influence à la mesure physique du bonhomme, sans toutefois avoir été un joueur qu'on considérait un joueur important dans ses autres équipes ou dans ses autres arrêts de la Ligue. C'est fascinant.
Oui, puis je pense que dans tout ça, il y a... En parlant, je sais pas, vous pourrez peut-être commenter également, mais en parlant aux différents joueurs pour les fins de cet article-là, ça m'a frappé de voir à quel point Scott Gomez était un coéquipier populaire également. On s'entend là, à chaque fois qu'à Montréal, on parle de Scott Gomez, tout le monde pense à son année complète sans marquer un but. Je suis sûr que lui, ça, lui-même, ça l'a traumatisé, puis ça, c'est un mauvais souvenir pour lui. Mais au-delà de ça, je pense qu'à l'intérieur du vestiaire, dans la façon dont ce gars-là opérait la dynamique d'équipe, qui réussissait à inclure tout le monde, il y a même au milieu de ses difficultés, il n'a jamais perdu l'appréciation de ses joueurs. Puis c'est pas quelque chose qui, de ses coéquipiers, dis-je, c'est pas quelque chose qui est nécessairement automatique. C'est sûr que des joueurs dans une équipe vont dire, ben là, ils vont afficher de la solidarité, ils vont dire, c'est mon coéquipier, puis je vais le défendre quoi qu'il en soit. Mais à un moment donné, si tu passes un an sans compter un but, puis que tu ne fais pas tous les efforts, à un moment donné, il y a peut-être des coéquipiers qui vont dire, hey, là, ça suffit, le temps est long, tu sais. Sauf que, il a jamais perdu le respect de ses coéquipiers, puis Gomez aussi, je pense que tu parlais dans le cas de Al Gill, Sean, tu disais que c'était une force tranquille. Gomez, c'était probablement une force un peu moins tranquille, mais c'était un type de leadership qui était différent, puis ça me fascine de voir justement à quel point la façon dont Bob Gainey a recréé cette équipe-là, c'est en allant chercher des vétérans qui étaient peut-être pas des têtes d'affiche tant que ça, mais qui étaient qui ont apporté un type de leadership différent et fait en sorte que ça a créé un noyau tout à fait étonnant qui a pas duré très longtemps. Dans le fond, quand on regarde là, les séries 2010, là, c'est une équipe qui s'est dissoute peu de temps après, mais le temps que ça a duré, ça fournit aux Canadiens un leadership qui je dirais à l'extérieur de Saku Koivu avait grandement manqué dans cette équipe-là au cours
de
la
saison. Honnêtement, même dans le cas de Saku Koivu, tu sais, Saku Koivu c'était un grand leader, mais une chose, tu sais, il y avait quand même sa gang à lui là. Tu sais, c'est comme une chose avec Gomez, c'est que il y avait pas de gang. Ouais. Tu sais, Koivu avait sa gang, puis tu sais, il était un leader avec les autres joueurs aussi, mais tu sais, en dehors de la glace, c'est avec sa gang qu'il se tenait. Le Gomez, il était certain de tout le temps inclure tout le monde, puis c'est pour ça que les nouveaux joueurs qui se joignaient à l'équipe dans les années d'après, tu sais, moi je me rappelle Lars Eller, il pouvait rien dire de mauvais contre Scott Gomez, parce que Scott Gomez prenait soin de lui, il s'assurait que Eller était invité à toutes les choses, qu'il faisait partie de la groupe, que quand tout le monde sortait souper, c'est lui qui venait, puis il était quand même assez timide quand il est arrivé, il était quand même assez jeune, puis il venait d'être échangé contre le héros des séries de 2010, là, Jaroslav Halak. Alors il était dans une situation très difficile en termes de la perception publique et tout ça. Scott Gomez l'a aidé énormément à passer à travers ça, puis de vraiment montrer à quel point c'est un joueur utile, puis c'était une bonne acquisition finalement pour le Canadien, même si le monde voulait pas que Jaroslav Halak se part. Il a quand même contribué au succès de l'équipe dans les années d'après. Il y a beaucoup d'autres joueurs comme Lars Eller qui ont passé par Montréal pendant les années de Scott Gomez que tu sais, j'ai jamais entendu une seule personne dans le vestiaire du Canadien questionner aucunement ce que Scott Gomez faisait. T'sais, il y avait un respect universel dans cette chambre-là, un respect comme universel au point que j'ai rarement vu. T'sais, j'ai rarement vu un joueur qui avoir un contraste tellement fort entre sa perception dans le champ puis sa perception dans le public. Je pense qu'honnêtement, j'ai jamais vu un joueur comme ça, qui était tellement adoré dans la chambre, ouais, et tellement haï par le public. C'est Scott Gomez. C'est Scott Gomez parce que tant que tu essayais, et particulièrement pendant cette année-là où il n'a pas marqué pendant une année au complet, tous ses coéquipiers se défendaient ce gars-là. Puis il n'y avait aucun sentiment d'amertume ou quoi que ce soit qui continuait à recevoir du temps glace, recevoir du temps sur le jeu de puissance, etc. Tu sais, d'habitude, comme Marc-Antoine, tu mentionnes, d'habitude, quand tu as un rendement comme Scott Gomez avait pendant cette année-là, tu sais, les joueurs commencent à regarder ça puis diraient, hey, écoute, à un moment donné, là, je ferais un meilleur job que lui. Mais honnêtement, j'ai jamais entendu un mot d'un seul joueur on ou off the record sur Scott Gomez dans ce sens-là.
C'est intéressant parce que généralement, c'est la dynamique opposée, n'est-ce pas, les gars? C'est les joueurs qui sont adorés du public et détestés de leur coéquipier.
C'est un petit ouais, peu l'inverse. Ouais, c'est ça.
Avec lui.
T'as-tu quelqu'un en tête?
Absolument pas. Absolument pas. Ouais, ouais. Absolument pas.
Non.
Et puis, c'est intéressant et je pense que ça vaut la peine de jeter un regard différent sur Gomez ou de le voir sous un autre angle. Et c'est pas le seul. Je pense qu'il y en a plusieurs de qui on pourrait dire la même chose. Mike Camilleri a tenu à souligner la contribution d'André Costitine, qui était quelqu'un, on se plaisait beaucoup à faire de la médisance sur lui, un peu sur toutes les tribunes. Et l'importance que ce joueur-là a eu, Camilleri lui-même, on peut parler de Georges, tout ça, de vraiment d'essayer de voir un peu sous un autre œil cette dynamique-là et ces personnages-là. Puis je pense que ça aussi, ça vaut la peine de le faire une fois de temps en temps, parce que c'est vrai que les derniers souvenirs que la plupart des partisans du Canadien auront de Scott Gomez, c'était le fait qu'il quitte avec la queue entre les jambes, là, d'avoir été victime d'un rachat, et puis les sites web et compagnie là pour marquera-t-il un but, verra-t-on ce qu'on voit. Je me souviendrai toujours là, de la dérision là, au moment où il avait marqué son but là, après 12 mois. Et donc, je pense que... Ne serait-ce que pour ça, c'est un exercice qui vaut la peine d'être fait.
Mais là, les gens disent « Ah, ben là, vous parlez de leadership, de gars qui sont bons dans la chambre. »
Ouais.
Sûrement qu'il y a des auditeurs qui vont nous dire et qui vont penser à la fameuse phrase qui circule que si un joueur est seulement bon dans la chambre, mais qu'il y reste.
Scotty Bowman! Scotty Bowman, ça!
Ouais. Mais en même temps, si je pense que... On aurait tort de sous-évaluer cet aspect-là, parce que même si, au plan individuel, un joueur qui est d'abord et avant tout un leader ou un gars qui a un impact dans le vestiaire et qui n'en a peut-être pas autant sur la glace, on va avoir tendance à sous-évaluer ça. Mais il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a du leadership aide à rendre les autres, il aide à rendre ses coéquipiers meilleurs. Donc, c'est pas seulement... son leadership et son rendement à lui, mais le rendement de ses coéquipiers est amélioré par le leadership de ce gars-là. Tu parles l'exemple de Gomez et Lars Eller. Ben, Lars Eller, s'il reste tout seul dans son coin en arrivant chez le Canadien, que personne ne va le voir et qu'il n'est pas inclus dans le groupe, ben, il va avoir beaucoup plus de difficultés à sortir de sa coquille puis à se développer comme joueur d'hockey. Donc, l'impact du leadership, c'est pas sur le leader lui-même, c'est l'impact sur la glace, il est chez ses coéquipiers.
Je pense que la différence entre une bonne équipe et une moins bonne équipe dans la Ligue nationale, c'est vraiment des petites choses, n'est-ce pas? Et puis, je pense que, oui, c'est plus important d'avoir des bons joueurs que d'avoir des bons gars. Sauf que, si tu as une atmosphère et une culture d'entraide et un projet commun où les gens rament tous dans la même direction, ben ça va être beaucoup plus facile pour chacun de trouver son compte et de trouver son rôle et de pouvoir maximiser ses qualités. Et ça, c'est ça qui est arrivé en 2010. C'est ça qui est formidable parce que c'est une équipe qui, somme toute, était relativement ordinaire par rapport à ce qu'est une équipe d'élite, là, on va se le dire. Sauf que ils avaient des bons éléments et des éléments un peu négligés. Et ces éléments-là ont su se valoriser pleinement pendant ce printemps-là. Puis c'est ça qui est intéressant. Et je pense que une des raisons pourquoi ça peut arriver ou qui facilite là justement là cette éclosion-là, si on veut, c'est justement les éléments de culture et de leadership. Et on peut pas baser une équipe là-dessus. Sauf que toutes les bonnes équipes ont cet élément-là de t'sais, l'intangible, là, si on veut. Là.
Mais c'est aussi important à noter que Gomez c'était pas simplement un gars de leadership, tu sais il a joué 26 matchs en série dans l'uniforme du Canadien, il a produit 18 points dans ces 26 matchs là, c'était 14 points en 19 matchs en 2010. Brian Gionta cette saison là, c'est tout le monde parle des buts, les 13 buts de Mike Camilleri en 19 matchs, ce qui définitivement doit être mentionné, puis on en parle beaucoup dans notre texte. Une chose que j'aurais aimé qu'on trouve une façon de faire rentrer dans notre texte qu'on n'a pas pu, juste à cause d'un manque d'espace, ce qui est ridicule à dire avec un texte de 8000 mots, mais c'est vrai, c'est que Brian Gionta, il a marqué 9 buts en 19 matchs cette saison-là. T'sais, comme Brian Gionta a connu des séries extraordinaires avec Scott Gomez comme compagnon de trio, là. C'était toute une série pour lui. En fait, ce sont les meilleures séries en carrière de Brian Gionta. C'était en 2010. Il a connu 15 points en 19 matchs. Alors, ces gars-là, oui, il a amené beaucoup de leadership. Ça a aidé à former le prochain groupe là, qui s'est rendu en finale d'association en 2014, là, comme on a écrit dans le texte. C'est vrai. Et la culture et tout ça, c'est important. Mais c'est important à noter que c'est pas assez juste d'avoir des gars qui font juste ça, qui font juste aider le culture et aider dans le short. Scott Gomez, tu sais, il a mené l'équipe cette saison-là pour les passes en 2009-2010. A connu des bonnes séries avec Brian Johnta, qui a quand même marqué 9 buts en 19 matchs. Alors oui, ils ont amené du leadership, mais c'était des gars qui avaient encore, du jus dans le tank, là, comme on dit. C'est quand même des gars qui ont connu des bonnes séries et ont fourni des performances assez... même pas adéquates, je dirais assez satisfaisantes, disons. Dans les matchs les plus importants.
L'autre chose que je soulignerais juste au passage, là, c'est à quel point Brian Gianta est un bon parleur. depuis qu'il a pris sa retraite, parce qu'à l'époque c'était pas le plus loquace, on va se le dire. Sauf que c'est un bonhomme qui est capable vraiment de cerner plein d'affaires. Et puis je pense que moi, en fait, en lisant, et puis c'est Harpin qui avait fait l'entrevue avec lui, en lisant un peu ses réponses et tout ça, j'ai trouvé un nouveau côté de Brian Gianta qui, et tu fais bien de le dire, Harpin, était tout un joueur de hockey là, quand même. Là. Il a rendu de fiers services aux Canadiens, cet homme-là. Et puis je pense qu'avec le recul, on va voir que il aura eu un rôle sous-estimé dans l'évolution de cette équipe-là.
On va dire, juste au plan journalistique, je regarde les gars qu'il y avait dans cette équipe-là, et puis tu parles de bons parleurs. Des bons parleurs, il y en avait un puis un autre. Là. Que ce soit Al Gill, Subban, Camilleri, Georges, Glenn Metropolit, Yaroslav Pašek, tous ces gars-là, c'était ouais, du bonbon.
Absolument.
Tu regardes aujourd'hui, c'est pas la même gamme de joueurs. Si on cherche des individus qui sont prêts à s'exprimer, à livrer le fond de leur pensée, puis qui ont une certaine couleur, on peut pas dire que le Canadien des dernières années nous a offert une brochette qui arrive proche des gars de 2010.
Non.
Non, ouais, entièrement d'accord. Écoute,
non,
j'ai passé une heure au téléphone avec Brian Gianta, une heure et plus au téléphone avec Josh Georges. Et la seule raison, tu sais, j'ai rappelé Josh Georges à un moment donné pour lui demander, tu sais, on commence notre texte avec une soirée dans un pub au centre-ville. Et tu sais, je l'ai rappelé après avoir passé plus qu'une heure au téléphone avec lui pour lui redemander... sur cette soirée-là, puis il était un des joueurs qui a décidé de pas y aller. Il voulait pas aller célébrer une défaite, comme il a dit. Mais je l'ai dit, écoute, je t'aurais besoin juste pour une autre 10 minutes, puis il m'a demandé, ah oui, ça va juste être 10 minutes, puis je suis comme, ben ça dépend de toi, là. Ça, c'est pas mon département. Moi, j'ai deux questions à te demander. Si ça te prend plus que 10 minutes pour les répondre, ça, c'est ta faute, puis Harry, puis en tout cas, mais ouais, c'est vrai que cette équipe-là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons parleurs. J'ai jamais connu un joueur qui aimait parler aux journalistes plus que Mike Camilleri. Mike Camilleri, j'avais tout le temps l'impression qu'il préférait parler à nous qu'à ses propres coéquipiers. Honnêtement, là.
Ben, c'est un gars qui était, il était toujours un peu en campagne électorale, faut dire, tu sais.
Puis il y en a aussi, je pense, que ça pouvait froisser une fois de temps en temps, mais je le défendrai jusqu'à mon corps défendant, cet homme-là, parce qu'il était tellement bon quand même le temps de chasser. Puis que justement, je pense que trop souvent dans la Ligue nationale, on a peur des personnalités qui jurent avec les murs beige ambiants, hein. Et aussi c'est un petit peu une de mes marottes là. Je pense qu'il y a aussi un petit peu d'anti-intellectualisme dans le hockey là. Puis Camilleri, c'est un gars quand même instruit qui avait étudié à l'Université de Michigan. Vous savez, les boys, hein, que quand lui a commencé au hockey, il m'avait raconté un joueur de foot dans un party là, dans l'espèce de dortoir où les athlètes dormaient et résidaient là. Et puis c'était un gars, il jouait pas, tu sais, mais il était bien fin, puis il s'appelait Tom Brady. Vous en avez peut-être entendu parler.
Ouais. Vaguement.
Fait qu'il y avait aussi Dominic Moore. Il y avait aussi Dominic Moore dans cette, dans cette équipe-là qui, pour une panoplie d'autres raisons, a eu un parcours quand même assez accidenté là, dans la Ligue nationale, qui était un autre qui avait une tête sur les épaules, n'est-ce pas? Et qui était un autre bon parleur.
Je veux juste une petite anecdote sur Camilleri pour montrer à quel point il aimait ça parler aux journalistes. Je me rappelle, après le deuxième match à Washington, quand le Canadien avait perdu, pour les auditeurs qui se rappellent pas, il y avait une avance d'un but avec à peu près une minute à faire en temps réglementaire. John Carlson marque sur un tir de la pointe, un tir que Halak aurait probablement dû avoir, et les Capitals ont marqué en prolongation puis ont remporté le match. Alors, après ce match-là, c'est pour le monde qui ne connaisse pas la façon que l'aréna à Washington est configurée. À un moment donné, il y a un couloir qui mène à la salle de presse, mais c'est aussi le même couloir que les joueurs utilisent pour se rendre à l'autobus. Alors, cette soirée-là, en sortant de la conférence de presse de Bruce Boudreau ou quelqu'un, ça donnait que je rentrais dans ce couloir-là en même temps que Camilleri. Et tu sais, à l'époque, j'étais quand même... Je sais pas, j'étais pas aussi confortable avec les joueurs que je suis maintenant. Puis anyway, même aujourd'hui, je penserais pas commencer à jaser avec un joueur après une défaite en prolongation en série. Je le laisserais juste marcher, puis moi, je marcherais à côté, puis je dirais pas grand-chose. Alors, c'est ça que je faisais avec Camilleri. Puis à un moment donné, il me regarde, puis il dit « Bon, qu'est-ce que t'en penses? » Je suis comme « Quoi? Tu veux savoir ce que moi, je pense? » Et j'ai dit, et je vais jamais oublier, ou je vais toujours me rappeler de ma réponse, parce que c'est très ironique avec la suite des choses, mais j'ai dit, je pense que vous avez bataillé extrêmement fort, puis vous avez perdu à cause d'un mauvais but, quasiment. Un mauvais but vous a coûté. Puis, Camilleri a juste hoché sa tête, c'est tout. Puis il a rien dit, il était comme juste un petit oui, puis il a continué vers l'autobus. Mais j'ai jamais connu un joueur qui aurait demandé l'opinion d'un journaliste immédiatement après avoir, tu sais, une défaite autant de crève-cœur que ça. Le Canadien aurait pu avoir une avance de 2-0 dans cette série-là si Carlson ne marque pas ce but-là avec une minute à faire dans le deuxième match. Et dans le moment, c'était impossible de ne pas avoir le sentiment que le Canadien... Que ça serait la fin du Canadien. Enfin, il fallait qu'il aille ce match-là pour être capable de remporter la série contre une équipe qui était aussi puissante que Washington. Et le fait que c'était 1-1 et pas 2-0 Montréal me semblait à moi puis à beaucoup de personnes que vraiment c'était une opportunité gaspillée là. Anyway, je trouvais que c'est un bon reflet du genre de gars que Camilleri était, puis il nous voyait pas comme l'ennemi comme beaucoup de joueurs le font aujourd'hui. Il voyait nous vraiment comme on était un peu partie de ça, puis on faisait partie de son entourage là. C'était un gars qui était quand même assez différent à ce niveau là.
Moi, je veux partager à tout le monde, sans vendre nécessairement les punchs de notre article, un commentaire que Al Gill a fait à l'égard de Michael Camilleri, une description qui m'a vraiment jeté par terre. Alors, je veux vous partager ça parce que je trouvais que c'était trop excellent. Alors, Gill parle de Camilleri puis dit, il disait qu'il était une Ferrari. Camilleri lui-même se qualifiait de Ferrari. Il disait qu'il était une Ferrari, ce qui est assez fidèle à la réalité. Il avait besoin de beaucoup de mise au point, d'un carburant spécial, il avait besoin d'être un peu dorloté, mais man, c'était une machine de haute performance. Moi, j'ai toujours été un vieux camion Ford, laid et stupide, mais qui fait le travail si tu as besoin de transporter quelque chose de lourd.
Ouais, non, c'est vraiment... Je dirais au moins une dizaine de citations, et il y en a quelques-uns qu'on n'a pas pu rentrer dans le texte. Écoute, moi, non. Josh Georges qui dit que plus qu'une fois, lui et Scott Gomez se sont mis à crier l'un après l'autre dans le vestiaire, là, entre les périodes ou quoi que ce soit, même en séries éliminatoires, là. Puis que, tu sais, c'était quelque chose que je trouvais comme très... tu sais, c'était un reflet de à quel point cette équipe-là s'est tissée fort vite, parce qu'il était capable de faire ça, mais après le match, ils prenaient une bière ensemble, puis c'était correct. Parce que les deux voulaient juste gagner. Puis c'était juste leur passion pour gagner qui a fait en sorte qu'ils se sont mis à crier l'un après l'autre. Ça, c'est une des choses qui n'a pas rentré dans le texte, mais on a eu tellement, tu sais, en tout cas, s'il y a du monde qui ne l'ont pas lu, là, il y a des anecdotes là-dedans. Hal Gill qui raconte, tu sais, les choses que P.K. Subban disait à Sidney Crosby sur la glace. Tu sais, des réunions de joueurs sans les entraîneurs pour parler de stratégie, un paquet d'affaires que ça vaut la peine d'aller lire. Mais je voulais aussi noter que, tu sais, ça tombe bien que notre texte sur les séries de 2010 tombe maintenant. Parce que je trouve que il y a quand même des parallèles qu'on peut établir entre l'équipe de 2010 et ce que les Canadiens de 2020 sont en train de vivre en ce moment, n'est-ce pas?
Ben là, tu fais référence au fait que si la Ligue nationale reprend ses activités, le Canadien va se retrouver à affronter les Penguins de Pittsburgh en série.
Oui, puis aussi comme les plus grands négligés de la Ligue. Ça aussi.
Oui, assurément, c'est ça. Mais moi, dire, il y a une grosse différence, c'est que la Ferrari de 2010 avait marqué 7 buts en 7 matchs contre les Penguins de Pittsburgh. Je me demande si le Canadien a ce genre d'arme-là dans son arsenal pour pouvoir vaincre les Penguins de Pittsburgh. C'est vrai que ces deux équipes qui se ressemblent dans la mesure où sont tous les deux des négligés. Mais là, le Canadien, c'est une autre gamme de négligés. Là, on parle d'une équipe qui est 24e au classement général, qui se fait donner le droit d'avoir une chance aux séries éliminatoires, donc en participant à une ronde préliminaire, si on peut l'appeler comme ça. Et puis, ça n'a pas fait l'unanimité au milieu dans la Ligue, le fait que ni le Canadien, que ce soit le Canadien ou les Blackhawks de Chicago, des équipes qui ont tourné autour de 500 toute l'année, se fasse donner le droit d'accéder potentiellement au tableau principal, à la ronde des 16. C'est assez spécial parce que d'un côté, à travers la Ligue, on va se dire, ben là, le Canadien, on lui donne un passe-droit, on lui fait une faveur qu'il ne mérite pas, c'est juste parce que c'est un gros marché qui va aller chercher des revenus, rah, rah, rah. Mais pour le Canadien lui-même, participer aux séries éliminatoires, c'est pas nécessairement, dans les circonstances actuelles, la meilleure nouvelle, là.
Non, je pense que c'est peut-être un petit peu un cadeau empoisonné. On en a d'ailleurs déjà parlé dans les autres podcasts. Mais d'un autre côté, je pense que faut prendre la réalité telle qu'elle est, hein, pas telle qu'on la souhaite. Et puis, je pense que quand on regarde les parallèles, évidemment, ça colle pas parfaitement avec 2010, mais c'est quand même. C'est pas inintéressant comme parallèle, on va se le dire. L'équipe de 2010 avait un bonhomme qui avait marqué plein de buts par les années passées avec Gionta. Il y avait un franc-tireur avec Camilleri. Ben, Gallagher, c'est un franc-tireur. Il y a un joueur, Max Domi, qui a déjà fait 72 points. On peut parler de... Il y a des éléments, en fait, communs, je pense.
En fait, le parallèle avec Domi et Camilleri, c'est le manque d'expérience en série. Tu sais, que Mike Camilleri avait joué 6 matchs en série. Max Domi n'a jamais joué en série. Qu'est-ce qu'il va avoir l'air de ce gars-là? Là? Moi, j'ai hâte de le voir.
Exact. Si ça arrive. Tout à fait. Puis j'ai hâte de voir, moi, Philippe Dano sur une plus longue base là, de matchs en série. On peut voir aussi que Jonathan Drouin a déjà fait des choses intéressantes en série. Moi, celui que je veux absolument voir sous les feux du projecteur, c'est Nick Suzuki qui, ma foi, a été un joueur absolument transcendant dans les séries de la Ligue de l'Ontario l'année dernière. Sera-t-il un joueur de premier plan là à la reprise? Je pense qu'il y a des pas pires chances que oui pour un joueur qui semblait frapper le mur entre guillemets là des 70 matchs d'avoir eu un petit 3-4 mois de repos. Ça fera pas de tort. Et donc je pense que c'est sûr que c'est pas la même chose que 2010. On n'a pas 9 nouveaux vétérans qui se joignent à l'équipe, c'est pas le gardien de but n'était pas dans un état de grâce en rentrant en série comme il l'était en 2010. Ceci dit, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui se ressemblent, notamment au niveau là, du fait qu'il y a personne qui donne très cher de la peau des Canadiens en série. Et moi, je pense que c'est peut-être une erreur. Est-ce que c'est une grosse erreur? Probablement pas. Je pense que Pittsburgh se doit de gagner contre l'équipe de 12e place dans l'association. Ceci dit, est-ce que ce sera facile? Sûrement pas.
Non, ce serait pas facile, mais l'affaire, c'est que, tu sais, il y a une raison pourquoi on joue des 4-7 en séries éliminatoires, là, parce que 4 victoires me semblent comme un échantillon assez large que ça démontre la plupart du temps. Je dirais pas tout le temps parce qu'on l'a vu en 2010, là, mais la plupart du temps, la meilleure équipe gagne. C'est plus souvent que non, disons. Alors, mais 3 sur 5, ça devient un peu plus pénible pour la meilleure équipe. Tu sais, les chances commencent à se niveler entre la meilleure équipe et le pire équipe dans ce scénario-là. Pittsburgh est définitivement avantagé. Ce serait le favori. Mais est-ce que c'est autant le favori que les Penguins auraient été dans une série de 4 sur 7 au lieu de 3 sur 5? Je pense pas. Mais l'affaire avec tout ça, c'est que l'ironie là-dedans, c'est que je pense que l'état-major du Canadien, leur pire cauchemar, c'est que le Canadien trouve une façon de battre les Penguins puis rentre en série. Parce que là, c'est leur pire cauchemar. Tu sais, les joueurs et les entraîneurs, c'est clair, c'est normal, et tu veux que ces hommes-là cherchent à gagner, puis accéder aux séries éliminatoires, puis avoir joué du hockey significatif qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Mais moi, je suis certain que si tu donnais une petite potion de qui forçait Marc Bergevin à être honnête, là, il dirait que ça me dérange pas d'être parti des 24 équipes là, tant qu'on n'est pas parti des 16 derniers, ça me va. Et tant que les équipes qui perdent dans les premières séries de 3 en 5 re-rentrent dans la loterie du repêchage, moi je suis correct. Mais si on est en train de perdre 8 échelons au repêchage, là, d'aller du 8e choix au 16e potentiellement, je pense que Marc Bergevin et ses hommes de hockey se diraient non, on va prendre le 8e choix, là, c'est correct. On va laisser faire ça.
Notre collègue de TVA Sport, Renaud Lavoie, a sorti une information en fin de matinée qui, à ma connaissance, n'a pas été reprise par personne d'autre. Mais il mentionne que le tirage au sort de la Ligue nationale pour le repêchage pourrait avoir lieu le 26 juin. Donc, un tirage au sort qui aurait lieu avant le début donc de ces séries éliminatoires-là. Je suis très curieux de voir si le tirage au sort, en fin de compte, va seulement impliquer les 7 équipes qui participeront pas au format des 24, ou encore si on va simplement modifier la façon dont on met les boules dans le boulier et que d'autres équipes, comme le Canadien, pourraient conserver des chances d'avoir un haut choix pêchage. Parce que quand tu parles, Harpin, du fait que ce sera un cauchemar pour le Canadien d'entrer en série, évidemment, c'est certainement pas pour la chance de gagner la Coupe Stanley ou l'expérience acquise ou quoi que ce soit. C'est à cause du fait que, à mesure que tu avances en série, ben, potentiellement, tu dévalues ton choix de première ronde. Puis le Canadien, avec un 8e choix, théoriquement, là, il est 8e. En termes de chance, avec un 8e choix au repêchage, le Canadien est quand même assez bien positionné parce qu'il y a environ 9 espoirs de premier niveau dans ce repêchage-là. Si le Canadien sort du top 10 parce qu'il a osé aller faire une ronde de série, ce serait un peu dommage.
Ben, je pense que c'est là qu'on va voir aussi à quel point le programme diplomatique du 7e étage du Centre Bell est rodé ou pas. Ça serait fort intéressant si le CH réussissait à avoir le beurre et l'argent du beurre. Là. Moi, je pense probablement que le prix de pouvoir prendre place aux séries sera justement de réduire les chances de gagner la loterie. Probablement que les Canadiens et les équipes qui seront là dans le 24, là, mais qui autrement auraient eu une ou deux boules pour le premier choix, vont voir qu'ils auront peut-être la chance d'avancer d'un rang ou deux. Mais je trouve ça intéressant. S'ils décident de faire ça avant même que les séries commencent, c'est sûr que ça enlèverait un... Est-ce que ça modifierait des incitatifs? Pas nécessairement certain. Je pense que ça enlèverait un flou entourant là les possibilités. Je pense que une équipe comme Montréal qui se sentait tout à fait libre de jouer sachant que puis ça, de toute façon les joueurs d'hockey se préoccupent rarement de ça là, mais ça demeure là partie, ça fait partie du discours ambiant là, sans savoir que ou savoir ça, en sachant qu'il n'y aura aucun effet sur justement le joueur pêcheur, c'est quand même c'est pas inintéressant.
Non, si tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre, c'est fameux. À ce moment-là, écoute, allez-y en séries
éliminatoires, ouais,
go
mais...
for it.
Oui, mais il faut comprendre que la raison pour laquelle... c'est le pire cauchemar de la Ligue nationale de hockey, là, dans ce scénario-là, c'est qu'une équipe remporte la loterie du repêchage et remporte la Coupe Stanley dans la même année. C'est ça qu'il veut absolument qu'il se produise pas. Ça, c'est priorité numéro un, selon ce qu'on entend, là, en termes de la Ligue. Ils veulent pas ça. Alors, écoute, on s'entend tous que ça prendrait un parcours extraordinaire de la part du Canadien pour remporter la Coupe Stanley. Mais même s'ils se rendaient en finale d'association, comme l'équipe de 2010 a fait, et qu'ils remportent, disons, le troisième choix dans le repêchage ou quoi que ce soit, ou même s'ils repêchent dans le top 10, c'est quelque chose que la Ligue veut absolument éviter. Alors, moi, là, tu sais, le système qui fait le plus de sens et qui serait juste, ben pas juste pour tout le monde, parce que déjà les 24 équipes est pas, définitivement pas juste pour tout le monde, mais d'avoir, tu sais, moi j'ai entendu dire que les équipes qui jouent dans la ronde préliminaire ont une certaine assurance que s'ils perdent cette ronde-là, ils seront dans la loterie du repêchage. On sait pas, c'est pas officiel, rien n'est officiel, mais ça se peut que un système de même se produit parce que il y a pas juste le Canadien dans cette situation. Là, je suis sûr que si tu demandes à Stan Bowman à Chicago s'il préfère avoir le 9e choix ou jouer dans une ronde de 3 sur 5 là, pour entrer en série, lui aussi il dirait moi je préfère avoir le 9e choix. Là, c'est pas juste eux autres. Même les Rangers pourraient peut-être même le dire la même chose. Il y a un paquet d'équipes qui sont vers le bas du classement qui rentrent dans ce tournoi-là. Que si tu leur donnes le choix de jouer dans le tournoi, avoir une chance à remporter la Coupe Stanley ou avoir un choix dans un des repêchages avec le plus de profondeur qu'on a quand même vu depuis quelques années, là, que ces équipes-là prendront le choix au repêchage dans le top 10 ou top 12 ou whatever. Alors, en tout cas, à mon avis, si c'est le cas que en étant inclus dans ce tournoi-là, le Canadien... non seulement perd leur... ce serait une chose qui serait assurée de rester à 8, là. Mais moi, ma crainte, si moi j'étais le Canadien, ma crainte serait que si je remporte ça contre Pittsburgh, là, je suis dans le deuxième 16, là. Je suis dans le deuxième demi de la première ronde, puis ça serait vraiment pas avantageux pantoute pour le Canadien, là. Ça, c'est certain.
C'est un moyen casse-tête, cette affaire-là, hein, les boys. Moi, il me semble que la façon la plus logique de le faire, justement... C'est ce que tu dis, Arpin, ce serait d'attendre jusqu'à ce qu'on connaisse les résultats du fameux play-in là, pour les équipes là, 5 versus 12, etc. Là. Parce que moi, je pense aussi qu'en principe, tu peux avoir quelqu'un comme Stan Bowman ou son patron, ou comme Jeff Molson ou quelqu'un d'autre qui arrive pour dire « Mais un instant, tu es en train de me dire que... j'aurais pas des boules pour le premier choix parce que je vais jouer en série, sauf que, regarde, c'est parce que moi, je suis obligé de jouer contre Pittsburgh, là. Qu'est-ce qui arrive dans l'optique où on perd? Et puis là, tout d'un coup, on est désavantagé par rapport aux autres équipes qui ont fini, mettons, Buffalo, qui a fini avec 3 points de moins, avec 2 matchs en moins de jouer.
Ouais.
Comment se fait-il que nous, on a pas la possibilité d'avoir un joueur de premier plan dans le top 3 alors que les Sabres vont l'avoir? Moi, je pense que ce sont des discussions... en fait, moi, j'adorerais ça, être dans cette pièce-là, parce que je pense que c'est peut-être un petit peu plus vinaigré qu'on pense, ces discussions-là.
Ouais, puis en fait... c'est difficile à... d'aligner tous les morceaux du casse-tête, parce que tu dis, ben, est-ce qu'on attend justement les résultats de la ronde préliminaire pour pouvoir déterminer un ordre, ce qui, bon, si jamais le tirage au sort a lieu à la fin juin, ça aura manifestement pas été le cas. Mais si tu attends la ronde préliminaire pour déterminer l'ordre du repêchage, si le Canadien perd, c'est facile, il garde ses chances du 8e rang, mais s'il gagne, est-ce que ça donne plus de chances aux Penguins de Pittsburgh? Tu sais, c'est assez bizarre d'entrer en ligne de compte les résultats de la saison régulière et ceux de cette série un peu étrange et patentée qui est organisée donc finalement en préalable aux séries éliminatoires. Donc c'est mon impression, c'est qu'en bout de ligne, ils vont dire ben il y a seulement les 7 équipes qui ne participent pas au à la ronde préliminaire ou aux séries éliminatoires qui vont avoir le droit donc d'être qui vont avoir des boules dans le boulier. Je serais pas surpris que ça se ramasse à être comme ça. Mais bon, en tout cas, si c'est le cas, si ça demeure que le Canadien continue d'avoir des chances, continue d'avoir des boules dans le boulier et qu'il peut soit préserver son 8e rang ou améliorer légèrement son rang, on sait déjà qu'il ne pourra pas être premier, deuxième ou troisième au classement général. Ça, on en a déjà parlé qu'il fallait qu'il oublie Alexis Lafrenière. Mais si il peut au moins conserver son poste, ça, je pense que ce serait génial.
Oh, absolument. C'est ça. En fait, c'est primordial. C'est primordial dans tout le processus que tu sais, sauf s'ils sont capables de battre Pittsburgh. Là, je comprends que tu perdrais ce rang-là. Puis effectivement, ça serait un mal pour un bon. Là, c'est pas négligeable le fait d'avoir une expérience des séries pour les joueurs qui n'en ont pas participé auparavant. Mais oui, c'est honnêtement, c'est de perdre ce choix-là. Je me rappelle, Marc Bergevin le disait souvent il y a 2 ans quand il parlait du fait qu'on a en quelque sorte mérité ce choix-là en ayant une saison de misère totale. Là. Puis c'est ça ce que les Canadiens ont fait là, cette saison. 2 séquences de 8 défaites de suite. Ils ont quand même connu des moments difficiles cette saison. Ce qui leur. Et la récompense pour ça, d'habitude, c'est un bon choix au repêchage. Alors ça devient. C'est la récompense devient différente. La récompense est « Oh, on te donne une chance de remporter la Coupe Stanley. » Oui, mais est-ce que tu nous donnes une chance de bâtir une équipe qui serait une véritable menace ou qui aurait une véritable chance de remporter les Coupes Stanley à chaque année en enlevant ce choix au repêchage? Moi, je dirais que non. Alors, c'est quelque chose que les Canadiens n'ont pas le contrôle là-dessus. Mais c'est quelque chose que la Ligue doit être quand même assez reconnaissant, là, qu'ils sont en train de prendre des équipes. Tu sais, comme les Canadiens ont liquidé leurs agents libres, là. Ils ont liquidé leurs joueurs de location au deadline. Chicago a fait la même chose, dans un certain sens. Tu sais, ils ont échangé Robin Lehner et une couple d'autres joueurs. Alors, c'est clair que ces équipes-là se préparaient pour l'avenir. Alors là, tout d'un coup, je comprends que les circonstances sont différentes, là, mais tout d'un coup, de demander à ces équipes-là, écoute, vous êtes en train de préparer pour l'avenir, mais là, reconcentre-toi sur le présent maintenant, parce que check cette chance-là, c'est pas tout à fait juste. Alors, il doit trouver une façon de faire en sorte que s'il ne se rend pas aux séries, au moins il conserve le choix au repêchage et au moins il conserve la récompense pour la mauvaise saison qu'ils ont connue, parce que c'est comme ça que les sports fonctionnent. Tu connais une mauvaise saison, ton récompense, c'est un bon choix au repêchage. C'est comme ça que ça marche.
Ouais. Fait que là, les joueurs ont entériné le projet. En fait, ils ont donné leur accord au projet ou de format de 24 équipes. Il y a encore plusieurs choses qui restent à être précisées, à être réglées et à négocier. On peut s'attendre à ce que la Ligue nationale fasse une annonce peut-être au courant de la semaine, au courant des prochains jours, par rapport finalement à la version finale de ce format de séries éliminatoires à 24 équipes, avec une ronde préliminaire, faut-il le rappeler. Et aujourd'hui, donc sur l'heure du midi, eh bien la Ligue nationale a annoncé qu'elle allait mettre sur pied ce qu'ils appellent la phase 2 de son plan de relance. On parle donc que les joueurs retourneraient au sein de leur équipe dans la ville où ils évoluent normalement, idéalement au début juin, c'est ce qui est ciblé en termes de date. Et donc les joueurs rentreraient, par exemple les joueurs du Canadien rentreraient à Montréal sur une base volontaire, ils ne seraient pas tenus de le faire immédiatement. Et puis ce serait donc pour participer à des entraînements en petits groupes, donc pas plus que 6 joueurs en même temps. Et donc ça c'est et d'ailleurs d'une ville à l'autre, ça risque d'être... on parlait de casse-tête tantôt, ça risque d'en être un autre casse-tête, parce que d'une ville à l'autre, d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre, les règlements de santé publique ne sont pas les mêmes. Là, si les joueurs du Canadien veulent rentrer puis se mettre à s'entraîner au complexe sportif Bell de Brossard, ben encore faudra-t-il que le complexe rouvre, parce que pour l'instant, il a toujours suspendu ses activités. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être à régler pour permettre à ces joueurs-là donc, de pouvoir se retrouver, s'entraîner. Les gars qui arrivent d'Europe, les gars qui arrivent des États-Unis vont devoir être testés pour la COVID-19. Et les gars aussi qui ont des contrats qui se terminent le 30 juin, je pense qu'il y a des questions de visa qui doivent être réglées également. Chez le Canadien, je pense pas que ce soit le cas de grand monde, là. Il y a peut-être Christian Follin qui me vient en tête parmi les Européens qui dont le contrat vient à échéance. Mais il y a des technicités de ce côté-là qui vont devoir être réglées au courant des prochaines semaines.
Moi, je pense qu'on est au bas mot au début d'un processus qui va prendre 6 semaines, peut-être un peu plus. Les visas, semble-t-il, que ça pose pas vraiment un obstacle aux États-Unis. Peut-être qu'au Canada, c'est autre chose. Puis je pense que rendu là, peut-être que Christian Follin, on va lui dire « Garde le bon Chris. Hey, Foley, tu peux rester en Suède, c'est pas grave. »
Ouais. Ouais, mais une partie,
on va s'organiser autrement.
Et une partie du phase 2,
c'est aussi que va être long, là.
Ben, une partie du phase 2, c'est aussi que les joueurs ont l'option de s'entraîner dans, s'ils résident proche d'une ville de la Ligue nationale, à part leur propre ville, ils ont l'option d'aller patiner dans ces places-là. Alors, les Québécois des autres équipes auront droit à avoir l'accès à Brossard. Les joueurs en Colombie-Britannique pourraient le faire à Vancouver. Il y a beaucoup de choses qui restent à voir, puis il faut aussi noter que le phase 2 commence pas là, c'est juste l'annonce de ce que ça va avoir l'air, le phase 2, mais ils anticipent que le phase 2 va commencer la semaine prochaine, ils ont dit tôt en juin, mais écoute, tout change assez rapidement, là, comme on a vu tellement souvent depuis que tout ça a commencé. Alors moi, jusqu'à temps que ça commence, le phase 2, je vais peut-être me concentrer sur d'autres choses, personnellement.
J'ai une question, messieurs. J'ai une question. Moi, je suis pas très ferré en économie, mais j'entends l'argument comme quoi la Ligue nationale a décidé d'élargir son cadre de série potentielle à 24 équipes pour permettre aux Canadiens, aux Blackhawks, et aussi aux Rangers de New York de participer aux séries, puisque ce sont 3 gros marchés de hockey, 3 équipes originales, etc. Mais dans la mesure où le Canadien ne jouera pas à Montréal, où finalement il n'y aura aucun revenu qui sera généré à Montréal comme tel, les revenus de ces gros marchés-là, ils viennent d'où exactement?
Ils viennent des droits de télévision.
Je pense que c'est assez... Ben c'est ça. Je pense que c'est vraiment juste ça. Là. C'est le fait que c'est les réseaux là qui veulent avoir des fans engagés au Québec, puis à New York, puis à Toronto, puis à Chicago, puis dans tous les marchés. On aura remarqué que c'est 6 équipes canadiennes sur 7 là qui s'y rendent. Hein. C'est pas un accident. Ben, je pense vraiment que c'est ça.
C'est les droits de diffusion locale qui commencent. Comme pour la ronde préliminaire, là, la raison pour laquelle la Ligue insiste sur le fait que ce soit une ronde préliminaire et les séries, c'est parce que les séries appartiennent au réseau national. T'sais. Alors, c'est Sportsnet, TVA Sport, NBC aux États-Unis qui vont prendre charge des séries. Mais le play-in, la ronde préliminaire, ça, je pense, il me semble, que ça va être les réseaux locaux qui vont diffuser ça. Alors, dans le fond, ça va être RDS pour le Canadien, Pittsburgh va avoir leur réseau local, tous les contrats locaux, là. Et c'est pour ça que quand le monde parle de 2 grands marchés, c'est parce que, tu sais, les contrats ou les engagements du Canadien et des Blackhawks de Chicago avec leurs propres diffuseurs vaut beaucoup d'argent. Alors, en n'incluant pas ces deux... Ils risquent de perdre beaucoup de cet argent-là sans ces deux équipes-là. C'est ça, on parle de revenus, là, mais on parle pas de revenus ajoutés, on parle de revenus pas perdus, dans le fond. Ce qui est plus, ça serait plus apte de l'appeler comme ça.
Oui, exact. OK. D'accord. Alors, c'est strictement une question de télévision. Ça répond à ma question. Hein? Je prétends pas tout savoir, je ne sais pas. C'est loin d'être le cas. OK, ben écoutez, messieurs, on va se garder, on va avoir amplement de quoi discuter donc de la suite des événements au cours des prochaines semaines. Harpin, tu pourras prendre le temps de savourer toute ta phase 2. Je sens tout ton emballement par rapport à ça, fait qu'on va attendre. On aura l'occasion d'y revenir en temps et lieu.
Hey, une fois que ça commence, je vais être super excité, là, mais c'est ça. On verra quand ça
commence. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est même pas acquis qu'il va y avoir du hockey cet été, là. T'sais, on
non.
a.
Les ça ne l'est pas, mais il faut planifier. Ben, il faut planifier. T'sais, la Ligue nationale, il faut qu'ils planifient ça, là, ça c'est sûr. Mais c'est ça, on sait pas. On sait pas ce qui va arriver. On sait pas si le phase 2 va... Tu sais, ça se peut que ça va jamais commencer. Tu sais, écoute, tu sais, au Québec, pendant une semaine, toutes les écoles primaires préparaient une rentrée de l'école pour finalement se faire dire « Ah, finalement, non, on a changé d'idée, on n'ouvre pas les écoles. Merci pour votre travail pendant une semaine qui était complètement hallucinant en termes d'organisation et tout ça, mais finalement, non, ça a changé. » Alors, les situations
leur
changent.
Leur phase 2 n'a pas marché.
Non, c'est ça. Leur phase 2 a été annoncée, comme la Ligue vient de le faire, mais ça n'a jamais commencé. Alors moi, jusqu'à temps que la phase 2 commence pas, je vais pas m'embêler trop sur l'annonce de la Ligue aujourd'hui.
Moi, je vais mettre un petit 2 sur le fait qu'il va y avoir du hockey. Moi, je suis convaincu.
Ben, moi aussi, là. Moi aussi, là. Ils vont s'organiser. Mais on a du temps, là. Moi, ça me surprendrait que ça soit pas avant comme fin juillet ou plus tôt, là. Ça, c'est mon guess à moi.
Exact, on est d'accord.
Nos lecteurs vont avoir le temps de s'installer puis de trouver un bon moment pour aller lire notre feature sur 2010. Ouais. Alors, messieurs, là-dessus, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à Athletic Montréal et qui vous donne droit également à Athletic de toutes les autres villes de notre réseau, vous pouvez, en tant que qu'auditeur de notre podcast, vous pouvez profiter de 40% de rabais sur votre première année d'abonnement en allant au athletic.com/supportathletic. athletic.com/supportathletic, ça vous donne 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Merci, messieurs, on se reparle bientôt.
Mais merci, Marc-Antoine. Merci, Arpin.
Merci, tout le monde. On se revoit vendredi avec The Athletic Support.